Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
À peine Bachar al-Assad renversé, l'ambassade d'Iran à Damas a été saccagée. Les portraits des mollahs piétinés. Les Syriens manifestent au grand jour leur hostilité envers Téhéran, violemment critiquée par le chef de la coalition rebelle lors de son tout premier discours de victoire.
Cette victoire est un tournant pour la région. Bachar al-Assad avait livré la Syrie aux mains des ambitions de l'Iran.
La Syrie était un maillon essentiel de l'axe de résistance iranien face à Israël, notamment pour approvisionner en armes le Hezbollah libanais. Mais depuis les attaques du 7 octobre et les ripostes israéliennes contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, l'Iran se retrouve affaibli. Le premier ministre israélien se félicite de ces réactions en chaîne et espère voir les Iraniens se soulever à leur tour.
Je sais que, tout comme nous voulons la paix avec vous, vous voulez la paix avec nous. Mais vous souffrez sous le joug d'un régime qui vous soumet.
Asphyxié par des sanctions économiques internationales, l'Iran a connu ces dernières années plusieurs mouvements de contestation, notamment pour le droit des femmes, des soulèvements réprimés d'une main de fer. Et pour le guide suprême, il ne faut pas s'attendre à ce que le revers de Téhéran en Syrie bouleverse le cours des événements.
Les analystes ignorants s'imaginent que lorsque la résistance s'affaiblira, l'Iran islamique s'affaiblira également. Mais l'Iran est puissant et le deviendra encore plus.
Alors que reste-t-il aujourd'hui de l'axe de résistance iranien au Proche-Orient ? La République islamique est-elle aussi inébranlable que l'assure l'ayatollah Ali Khamenei ? Ou le régime iranien peut-il tomber à son tour ?
Nos trois invités pour ce débat, Azadeh Khian, bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en sociologie politique à Paris, spécialiste de l'Iran. Votre ouvrage « Repenser le genre, ethnicité et religion en Iran » vient de paraître en langue anglaise aux éditions Tauris. Selon vous, la chute de Bachar al-Assad et le revers subi par le Hezbollah fragilisent l'emprise de l'Iran dans la région. Cela affaiblit aussi le pouvoir d'Ali Khamenei, le guide suprême donc, dont la question du remplacement est de plus en plus posée. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, « Les 100 mots de la guerre », est paru aux presses universitaires de France. Selon vous, Frédéric Ancel, ce n'est pas parce qu'un dictateur tombe que les autres, en l'occurrence le régime iranien, vont tomber. En revanche, une attaque sur les installations nucléaires iraniennes vous semble très possible. Et si Téhéran ne négocie pas sur cette question, vous pronostiquez carrément, vous y allez, une guerre dans les 4 ans. Et à côté de vous, Antoine Mariotti, bonsoir,
bonsoir.
Journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient. De 2021, je cite « La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien », votre ouvrage chez Talendier. Selon vous, l'axe de la résistance tel qu'il existait a disparu, mais il ne faut pas sous-estimer les capacités de l'Iran à s'adapter. On regarde le pays avec nos yeux d'occidentaux en se disant qu'ils sont affaiblis parce que nous avons envie qu'ils le soient, c'est plus complexe. Et on démarre justement avec la carte du jour sur ce fameux axe de la résistance.
Exactement, hein, cet axe de la résistance, on va voir que l'Iran a dessiné au Proche et Moyen-Orient pour tenter de contrer, d'encercler Israël grâce à des relais qu'on appelle aussi proxys hein, dans la région, notamment le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, tous deux durablement affaiblis, et la Syrie, donc, où Téhéran vient de perdre un soutien de taille. Un axe de résistance à terre ou seulement affaibli, Frédéric Ancel ?
Alors, il est très affaibli. À terre, non, parce que l'Iran conserve une capacité de nuisance importante, notamment sur le plan balistique. L'Iran dispose de beaucoup de missiles, dont on a vu d'ailleurs en avril dernier que certains, la plupart sans doute, étaient capables de toucher le territoire israélien. Mais très affaibli, pourquoi ? Parce que sur cette carte, on constate très bien que l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban constituaient un continuum que j'appelle pan-chiite, en tout cas pro-iranien. Ce qui permettait aux Iraniens d'aller trafiquer pratiquement et guerroyer jusque, et y compris en Méditerranée, avec le port de Beyrouth, dont une partie est des zones est tenue par le Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah au Liban, il a été très largement écrasé. Autrement dit, sur le plan à la fois aérien, maritime et terrestre, il est complètement isolé. Or, ce Hezbollah, c'était l'assurance-vie de l'espace aérien iranien. Et vice-versa. C'est-à-dire que si Israël frappait durement le Hezbollah, l'Iran devait réagir, et vice-versa. Or, les Israéliens ont réussi à affaiblir considérablement les deux. Cerise sur le gâteau, mais on va en parler, la Syrie
Alors,
est tombée.
Justement, Antoine Mariotti, en quoi la Syrie constitue la chute d'un maillon essentiel de cet axe de la résistance, parce que notamment l'accès au Liban pour armer le Hezbollah, c'était ça ?
Oui, puis on peut encore s'appuyer sur cette carte. Vous voyez, l'Iran a apporté énormément d'armes au Hezbollah au Liban, et notamment par la Syrie, où concrètement, ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient et passer. Donc c'était un couloir terrestre assez facile. Et Israël, d'ailleurs, a frappé non pas à quelques dizaines ou centaines de reprises, mais à des milliers de reprises depuis 2011 sur le sol syrien des cibles iraniennes, et notamment des convois d'armes, encore très récemment, et notamment pendant la guerre importante là, avec le Hezbollah qu'on a vu depuis le 23 septembre. Donc ça, c'était un véritable problème. Ça ne veut pas dire que rien n'arrivait par avion, par exemple, alors que l'aéroport de Beyrouth est en grande partie contrôlé quand même par le Hezbollah. Mais pour autant, évidemment, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus problématique et beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus, beaucoup moins discret pour apporter finalement des armes, notamment au Hezbollah. Et je souscris totalement à ce qu'a dit Frédéric Ancel. J'ajouterais juste qu'il faut être prudent sur le moyen terme parce que le Hezbollah n'est pas mort, il est considérablement affaibli. Bien plus que le Hamas, bien moins que le Hamas d'ailleurs, mais ils ont eux aussi, comme l'Iran, encore de très fortes capacités en termes de missiles, en termes d'hommes, etc. Pour autant, l'état-major est décapité, mais c'est comme dès qu'il y a un chef qui tombe, il y en a qui surgissent. Même si Nasrallah, c'était quand même plus qu'un
Hassan
simple leader.
Nasrallah, le leader charismatique, entre guillemets, du Hezbollah. Azad Ekian, la chute donc de ce régime, de Bachar al-Assad, c'est un sacré revers définitif pour l'Iran.
En tout cas, pour l'instant, on le voit, c'est un sacré revers d'abord pour le Guide Khamenei qui a tout fait insister pour que plus de 70 milliards de dollars soient dépensés depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Déjà en 2011, on parlait de 5 milliards de dollars d'aide iranienne vers la Syrie. Puis il y a eu aussi des coûts, en fait, pas seulement financiers, mais militaires et humains très importants. Il y a beaucoup d'Iraniens gardiens de la révolution qui ont été tués en Syrie, mais également des Afghans et des Pakistanais chiites qui avaient été envoyés par l'Iran se battre pour soutenir et garder Bachar au pouvoir. Et ils n'ont pas hésité à tuer des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de Syriens. Donc ça a été très contesté par la population iranienne. Khamenei et les gardiens de la Russie le faisaient sous prétexte qu'on ne se bat contre Daesh en Syrie, parce que si on ne se bat pas contre Daesh, ils vont arriver jusqu'en Iran. D'une part, d'autre part, on est en train de protéger le sanctuaire de Hazrat Zainab, la sœur de troisième imam qui se trouve effectivement à Damas, etc. C'est-à-dire soit sous un prétexte à la fois religieux, mais également militaro-politique. Tout ça, c'est tombé à l'eau, effectivement, d'autant qu'il ne faut pas oublier que la dépendance de l'Iran à la Russie est de plus en plus décriée par les Iraniens, parce que n'oublions pas que l'un des slogans principaux de révolution iranienne de 79 était l'indépendance de l'Iran à l'époque vis-à-vis des États-Unis, mais ce régime est devenu de plus en plus dépendant de la Russie et aussi un peu de la Chine, mais surtout de la Russie. Et maintenant, on constate qu'ils n'étaient même pas au courant de la décision prise par les Russes, selon l'ambassade iranienne en Syrie, qui a dit on ne s'est même pas au courant. On l'a su juste la veille au soir de départ de Bachar
al-Assad.
Donc ce sont les Russes qui décident de tout. Néanmoins, ils tentent de revenir en Syrie. Pour eux, l'histoire n'est pas finie comme ça a été dit.
Mais cette chute d'Assad, elle change complètement la donne, si on en croit plusieurs spécialistes politiques. Écoutez Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis.
Je crois que la perte de l'Iran's client state en Syrie has contributed to that different context. The balance of power in the Middle East has changed significantly, and not in the way that Sinwar or Nasrallah or Iran had planned. We are now faced with a dramatically reshaped Middle East in which Israel is stronger, Iran is weaker, its proxies decimated.
Frédéric Ancel, est-ce qu'il ne va pas un peu loin, là, tout de même, Sullivan ? La Syrie n'est pas devenue un pays pro-Israël du jour au lendemain, parce que des rebelles ont déboulonné Assad et ses affidés ?
Non. D'ailleurs, par un faux paradoxe, les Israéliens n'ont pas remporté une victoire en Syrie. Je veux dire par là que Assad n'était plus dangereux militairement depuis très très longtemps, c'est même le moins qu'on puisse dire. En revanche, la chute d'Assad, ça affaiblit, comme on l'a très bien dit, l'Iran, mais c'est surtout l'illustration d'une véritable victoire face au Hezbollah. Et de ce point de vue-là, pour les Israéliens, c'est important, parce que l'opinion publique est encore absolument traumatisée par le 7 octobre. Or, le Hezbollah se trouvait à la frontière au moment du 7 octobre, et dès le 8 octobre, après le pogrom du Hamas, a déclenché cette fameuse guerre de basse intensité qui, au bout de 8-9 mois, s'est retournée contre lui, et les Israéliens ont fini par frapper. Et aujourd'hui, le Hezbollah est au nord du fleuve Litani, c'est-à-dire à entre 5 et 30 kilomètres de la frontière. Mais 5-30 kilomètres, ça veut dire pas 500 mètres comme le 7 octobre dans la bande de Gaza. Donc de ce point de vue-là, la représentation israélienne, elle est effectivement celle d'une grande victoire, mais pas tellement à cause de la chute d'Assad.
Mais Antoine Mariotti, est-ce qu'on est sûr que l'Iran n'a pas encore les moyens de déstabiliser les rebelles ? Là, ils veulent faire ami-ami avec ce nouveau pouvoir, mais est-ce qu'ils n'ont pas encore en Syrie des milices présentes, cachées ? Je ne sais pas, c'est une question qui peut vous paraître surprenante, mais est-ce que c'est le cas ?
Non, mais déjà, en plus, il faut quand même bien comprendre quelque chose, c'est que ces rebelles, c'est une coalition de rebelles et de groupes un peu hétéroclites, qu'ils ne contrôlent pas la totalité de la Syrie non plus, donc il faut être prudent. Il y avait des rebelles qui étaient un peu différents au sud. Dans tout le nord-est, vous avez les forces démocratiques syriennes, donc essentiellement des Kurdes, ces forces arabo-kurdes, sur lesquelles, pour nos téléspectateurs, se sont appuyés les Occidentaux pour vaincre et détruire le califat de l'organisation État islamique. C'est essentiellement des Kurdes, et ça ne plaisait pas du tout aux Turcs que l'on s'appuie sur eux plutôt que sur les Turcs qui avaient proposé. Donc il y a une espèce de bière à trois bandes qui va être intéressant de voir. Est-ce que le HTC, Ayatollah al-Sham, donc ceux concrètement qui viennent de prendre le pouvoir à Damas, pour faire simple, vont être un peu plus vers les Turcs ou au contraire vers les Kurdes ? Ce sera intéressant. Mm. Et puis est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on a Djoulani, donc ce nouveau chef, qui est très très bon dans la communication, il a reçu des journalistes occidentaux, qui nous dit qu'il a changé. Bon, c'était quand même le chef d'Al-Qaïda à un moment.
C'était un djihadiste. Donc,
moi je veux bien qu'on change, il a peut-être changé. Je reste prudent, j'attends de voir dans les faits, au même titre que les milliers, dizaines de milliers d'hommes qui étaient avec lui faisaient aussi partie d'Al-Qaïda, et on ne change pas du jour au lendemain de point de vue. Donc je pense qu'il faut juste être prudent, et qui nous dit qu'entre eux, ils ne vont pas se taper dessus au bout de quelques temps. Donc tout ça est très volatile. Moi, je ne ferai pas de pari, je ne mettrai pas tout mon plan épargne sur la table pour parier, mais en tout cas, ça va être très très intéressant à suivre dans les semaines déjà, et dans les mois et années qui viennent.
Alors, on évoque l'affaiblissement de l'Iran du fait de l'affaiblissement du Hezbollah, etc., mais on va évoquer avec vous, Anna, un affaiblissement en interne, avec des contestations qui n'arrêtent pas la dernière en date. Une chanteuse sans voile.
Exactement, elle s'appelle Parachou Hamadi, elle a 27 ans et vous avez certainement vu circuler cette vidéo YouTube dans laquelle elle donne un concert d'une trentaine de minutes et où elle apparaît en robe noire, à fines bretelles et sans voile. Alors ce concert, il a été diffusé mercredi dernier, précisément 2 jours seulement avant l'entrée en vigueur prévue de la loi hijab et chasteté, 2 ans aussi après la mort de Mahsa Amini. Et cette loi, elle prévoit de durcir les sanctions à l'encontre des femmes qui ne portent pas correctement le voile ou, je cite, qui font la promotion de la nudité et de l'indécence. Et donc avec cette loi, les femmes seront passibles d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros. Elles pourront se voir retirer leur permis de conduire ou leur passeport si elles ne les payent pas. Elles encourront aussi des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans pour les récidivistes et même des peines de flagellation. Mais cette loi, finalement, n'a jamais été promulguée. Pourtant, le Parlement l'a votée en septembre 2024, mais c'est le président iranien lui-même, en personne, Massoud Pezeshkian, qui a refusé de la signer en craignant une nouvelle révolte populaire. Et voilà sa justification dans un tweet. Cette loi, qui contient des ambiguïtés, n'est pas simple à appliquer. Alors reste que Parachou Hamadi et ses 4 musiciens ont été arrêtés par la police juste après la diffusion de la vidéo, puis relâchés, mais ils restent tout de même poursuivis par la justice. Azadekian, on le voit, le Parlement et le président ne sont pas franchement alignés sur cette question. Est-ce que c'est le signe que le régime est affaibli en interne ?
À mon sens, le régime est affaibli et de plus en plus, au moins depuis décembre 2017, souvenons-nous, lorsque ce régime a été fortement contesté par les classes populaires, parce que c'était les jeunes des classes populaires qui étaient dans la rue en 2017, 18, 19, contre la cherté de vie, le chômage, etc. 1500 d'entre eux ont été tués, selon les organisations de la défense des droits humains, et puis on entre à partir de 2002 dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et Parachou Hamadi en fait partie, il ne faut pas oublier. Ça continue, ça n'a jamais arrêté, même si on n'entend plus beaucoup de reportages. Mais nous, Iraniens, on sait ce qui se passe à l'intérieur du pays. Avant Parachou, d'ailleurs, vous voyez bien qu'elle est soutenue par 4 musiciens hommes. Et vous voyez bien que quand les filles, les femmes iraniennes protestent dans les rues ou à l'université, ben, elles sont soutenues par des jeunes hommes. Mmh. Et ça, c'est vraiment très, très important. Premièrement. Ensuite, moi, je voudrais dire, effectivement, on parlait de la Syrie. Bien sûr qu'on est très heureuse, très contente pour les Syriens et Syriennes d'avoir pu renverser le régime de Bachar el-Assad. Mais pour l'instant, c'est qui l'alternative? C'est des islamistes. En Iran, l'alternative ne sera plus jamais islamiste. Mmh. Ça sera une alternative démocratique et laïque. Et c'est ça qu'on voit tous les jours, en fait, en Iran, et qu'on voit chez Parastou, mais elle n'est pas seule, elle est soutenue. Alors, pourquoi, juste un mot, pourquoi Pezeshkian, le président iranien, est obligé de demander la suspension de cette loi, parce qu'il a dit, si on met en vigueur cette loi, la sûreté de l'Iran sera, du pays, sera justement en cause. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la majorité de la société iranienne est contre l'islam politique et va s'opposer à la pratique de cette loi, à la mise en pratique de cette loi. On en est là. Donc, le régime est très affaibli.
Antoine Mariotti, est-ce que vous pensez que la contestation populaire, elle peut faire tomber le régime? Vous êtes d'accord avec ce que dit Azadekian?
Je pense que c'est une possibilité. Encore une fois, je ne parierai pas mon plan épargne, mais je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il y a deux ans, quand il y a eu Mahsa Amini, justement, etc., il faut se rappeler que...
La mort de Mahsa Amini,
qui avait été arrêtée,
dans les ports du voile, arrêtée,
mal porter son voile et qui est décédée en détention. On nous a beaucoup dit que le régime va tomber dans les semaines ou les mois qui viennent.
Non, pas du tout. Qui a dit ça?
Il y a des gens qui...
Non, je ne dis pas vous, c'est un processus révolutionnaire qui a commencé et qui continue.
Il y a des gens qui, quand même, beaucoup nous faisaient croire que il était tellement affaibli que c'était presque une question de moi que plus rien ne serait jamais comme avant. Et alors, il y a des choses qui ne sont plus comme avant, il y a de plus en plus de femmes, et celle-ci fait partie, elle a le malheur, au sacrilège, de ne pas mettre de voile, d'être belle en plus, d'être habillée presque comme dans une soirée occidentale, tout ce que le régime déteste. Et en effet, il y a des fondations qui se sont effritées depuis, et ça continue, même si on en parle beaucoup moins malheureusement dans les médias.
Mais d'autant que l'économie du pays...
Mais au même titre que, comme le disait justement Frédéric Ancel, c'est pas parce qu'un dictateur tombe que l'autre va tomber immédiatement. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. À quelle échéance?
Que l'opposition, elle est plus sociale que politique, parce que justement, la structuration de la résistance, de l'opposition, elle n'est pas aussi forte que ça aujourd'hui en Iran qu'elle l'est en Syrie.
Sur le plan politique et idéologique, elle l'est, mais peut-être pas autant que sur le plan social. Et Azadeh tout à l'heure rappelait qu'à plusieurs reprises, d'ailleurs pas seulement en 2017, depuis déjà 2009, il y a eu un certain nombre de manifestations monstres, très très importantes, et à chaque fois, l'un des moteurs principaux, c'était le social. Je me souviens également que dans une autre sphère, mais qui n'est pas très éloignée, la sphère arabe, le printemps arabe, a eu en 2011, 2012, 2013, pour moteur principal, le social. Et ici en France, on est 67 millions de politologues, alors on se passionne pour savoir si les gens sont à gauche ou au centre ou à droite. Mais en réalité, beaucoup de révolutions...
Là, vous dites qu'il n'y a pas non plus de relais politiques, c'est ça?
Alors, il y a des relais politiques qui, me semble-t-il, effectivement, sont en train d'émerger. Le leadership, il se crée en réalité dans un processus des révolutionnaires, et c'est vrai que ça prend du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, la République islamique est surtout en danger pour des raisons sociales, et c'est d'autant plus vrai que, vous l'avez rappelé, ils ont pris la responsabilité écrasante de donner plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'ils n'avaient déjà pas en interne pour nourrir correctement et loger et soigner la population, au profit du Hezbollah et de Bachar el-Assad.
Alors, l'économie est en lambeaux, d'ailleurs.
Oui. Alors, on va interroger les répercussions de la chute de Bachar el-Assad sur les relations entre l'Iran et les États-Unis. Et pour ce faire, on va se remémorer une affaire autour du programme nucléaire iranien. 8 mai 2018, premier mandat de Donald Trump, décision en rupture totale avec ce qu'envisageait et ce qu'avait décidé son prédécesseur Barack Obama. Regardez.
Début d'après-midi à Washington, Donald Trump s'avance vers le pupitre de la Maison-Blanche. Le président américain confirme ce que la rumeur annonçait. D'ici très peu de temps, le premier soutien financier du terrorisme dans le monde sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse du monde. Aussi, j'annonce que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. L'accord sur le nucléaire iranien a été signé à Vienne en juillet 2015, après 21 mois de négociations acharnées. Les pays signataires sont les États-Unis, l'Iran, la France et les autres membres du Conseil de sécurité.
Frédéric Ancel, pour rester sur cet aspect nucléaire, est-ce qu'il peut y avoir une accélération du programme nucléaire comme une fuite en avant, ou au contraire, est-ce que la rupture donc, entre l'Iran et Damas peut conduire à une ouverture des discussions accélérées avec les États-Unis?
La est-ce que c'est ça l'alternative essentielle pour les quatre prochaines années? Pourquoi je dis quatre
ans?
Évidemment,
puisque Trump,
dont deux ans, en principe, sauf s'il chute d'ici là, de Netanyahou. Et là, vous avez des... Vous savez, j'aime bien filer la métaphore des étoiles qui se mettent sur un même axe. Là, en ce moment, avec l'affaiblissement dont on a parlé sur la Syrie, sur le Hezbollah, avec le maintien au pouvoir d'un gouvernement nationaliste très dur en Israël, et Trump qui revient le 20 janvier et qui a déjà dit que de toute façon, l'Iran n'aurait pas la bombe, soit l'Iran décide de négocier, soit je pense qu'effectivement, il y aura la guerre.
Et qu'est-ce que vous pensez, Azadekian, la piste privilégiée pour vous, est-ce que vous voyez, parce que l'Iran est en train d'enrichir encore de l'uranium. Hein.
Absolument, absolument.
Et en même temps, il dit à l'Agence internationale pour l'énergie atomique de venir voir ce qui se passe.
Absolument. Alors, il y a deux choses. Les débats en cours en Iran au sein de la classe dirigeante, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on commence à négocier avec Trump. Sur le nucléaire, parce que là, ils le savent. Ils savent aussi que Trump est susceptible de laisser Netanyahou utiliser les bombardiers spéciaux pour bombarder les deux sites nucléaires iraniens qui posent problème, Fordow et Natanz. Déjà, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas avant. Ils sont en train de se laisser persuader qu'il faut négocier avec Trump. Effectivement, Trump, pendant son premier mandat, souvenons-nous, n'a déclenché aucune guerre. Et donc ça rassure aussi les Iraniens que s'ils vont dans le sens de Trump, c'est-à-dire renégocier un nouvel accord sur le nucléaire avec Trump, ils peuvent effectivement empêcher le bombardement de leur site nucléaire et également éventuellement pourquoi pas aller vers une normalisation des relations même avec les États-Unis. Vous savez qu'il y a eu quand même des rencontres entre le propriétaire de X et de Tesla, Elon Musk. Avec M. Ilavoni qui représente l'Iran aux Nations Unies.
Et Antoine Mariotti, la hantise de tout le monde, une frappe ciblée israélienne sur un site nucléaire iranien pour régler la question définitivement.
Oui, c'est une possibilité. Et brièvement, je pense qu'il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va l'avoir. Et qu'on est un petit peu dans... Enfin, les ingrédients, concrètement, c'est que vous avez un Trump qui veut absolument un deal, qui a dit, juste après son élection, qu'il n'avait rien contre les Iraniens, mais qu'en revanche, il était en effet absolument hors de question qu'il y ait une bombe nucléaire. Mm-hmm. Vous avez en Iran eu un changement de président avec aujourd'hui, non pas un réformateur, mais un modéré. Je trouve qu'il faut faire attention quand on dit réformateur, et qui a déjà dit qu'il voulait négocier, etc., parce que l'économie est en lambeaux. Et ils ont aussi vu, les Iraniens, que les Israéliens étaient prêts à frapper assez fort ces derniers temps. Donc tout est là pour qu'on puisse avoir une négociation. Pour autant, il y a des situations tellement opposées que rien ne dit que ça va être le cas. Et il y a un risque aussi, comme on est un peu à la limite de soit un accord, soit une bombe, et bien qu'il puisse y avoir potentiellement des frappes aussi. Donc, et le fait qu'il y ait Trump, même si lui ne veut pas être...
Très bien.
Dans une frappe,
tout est ouvert.
Pourrait donner un feu vert à Netanyahou.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour de l'Iran et après.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.